Bonjour à toutes et à tous. De la grêle et du tonnerre, depuis 3 semaines, Jean-Pierre Devroit nous entretient. Et ce qui nous relie à sa parole, ce n'est pas seulement ce qui se dit de ces arrière-paysans, ces arrière-pays des sociétés paysannes, mais bien la manière dont il le dit, le style de sa recherche à nul l'autre pareil. Vous avez vu comment, au fond, contre les idées de rémanence, de persistance, d'archaïsme, Jean-Pierre Devroit arme l'acuité de son regard. Aujourd'hui, évidemment, on rentre dans le grand spectacle, entre en scène les escamoteurs, descendent les nefs des nuages. On est effectivement avec toi pour apprendre et comprendre la suite de l'histoire.
Merci Patrick. Alors la tempête, l'orage et la grêle occupent une place singulière dans les manières dont les humains perçoivent et tentent d'accommoder les forces de la nature à leurs activités productives. 5 éléments importants les distinguent d'autres phénomènes météorologiques associés aux températures et aux précipitations. Leur caractère régional, leur développement dans l'espace, souvent réduit à la localité, leur temporalité, caractérisée par la saisonnalité et par leur caractère imprévisible, et enfin leur caractère potentiellement destructeur. En France, les chutes de grêle sont concentrées en fréquence et en intensité d'avril à septembre. Ce caractère de saisonnalité est particulièrement critique pour les activités agricoles en climat tempéré. Les pics d'averse coïncident avec les périodes de floraison et de mûrissement au printemps et avec la période décisive des récoltes estivales. Dans un régime agroécologique médiéval marqué par une faible productivité agricole, ces hasards de la conjoncture météorologique pouvaient entraîner des disettes locales. La grêle pouvait ruiner en un instant les récoltes en brûlant les bourgeons ou en détruisant les fleurs ou les fruits. Dans les champs, les tornades provoquaient l'averse des épis et rendaient inutilisable la faucille ou la faux. Il restait parfois possible de ramasser les grains, mais au prix d'une main-d'œuvre décuplée. La durée d'exposition au risque climatique de la végétation constituait un facteur de risque non négligeable, comme l'illustrent les primes d'assurance contre la grêle qui variaient au début du XIXe siècle dans le canton de Berne de 2% par an pour les céréales et de 4% par an pour les plantations exposées le plus longtemps à la grêle, raisin, houblon et tabac. La perception et les réponses aux phénomènes grêleux sous l'Ancien Régime s'inscrivent donc dans une économie idéale de l'incertitude, selon l'expression de Maurice Godelier, « les humains produisent de la société pour vivre ». Paramètres régionaux des climats et facteurs locaux influencent la fréquence et l'intensité des orages et des averses de grêle. À cause de la circulation des masses d'air, ils sont plus fréquents en montagne et en France, dans les régions du centre-est et du sud-ouest du pays, et généralement dans les régions méditerranéennes. Les premières statistiques pré-industrielles permettent d'évaluer la fréquence du phénomène. Dans le département du Rhône, 43% des communes étaient frappées en moyenne au moins une fois tous les 5 ans entre 1824 et 1866. C'est dire que la mémoire et les récits de la grêle catastrophe passaient par les caractéristiques géo- et bioclimatiques régionales, par l'expérience de vie et par la tradition familiale. Et on voit bien ici que notre notre Agobard de Lyon, il est vraiment dans une des régions où les averses de grêle sont les plus fréquentes. C'est donc sa dimension locale qui permet le mieux d'appréhender les manières paysannes de percevoir et de réagir à ces phénomènes venteux et orageux. Ici, la tornade a mis en lambeaux une longue bande de terrain fertile. Là, la foudre ou les vents violents ont essaimé le clocher d'une église. Ici, la grêle a décimé les vignes d'un coteau en épargnant le voisin. Comment les collectivités rurales faisaient-elles sens commun pour interpréter ces événements climatiques qui avaient potentiellement un impact individuel et collectif destructeur à l'échelle du village? À quelle forme de causalité faisait-elle appel? Les sources écrites, bien sûr, sont notre seul moyen d'approcher la sensibilité des humains face aux tempêtes. Au Haut Moyen Âge, lorsque les chroniqueurs couchaient par écrit le temps qu'il fait, c'était pour signaler des aléas qui faisaient collectivement sens, à leurs propres yeux évidemment, en raison de leur durée et de leur exceptionnalité, comme un hiver extrême ou un échec des récoltes. Des phénomènes météorologiques brefs et localisés, comme les tempêtes, n'étaient mentionnés dans la haute culture que dans deux circonstances, lorsqu'elles relevaient de l'extrême et pouvaient être interprétées comme un signe ou un prodige divin, lourd de conséquences et de significations pour le futur, ou lorsqu'elle frappait un édifice renommé, palais, monastère, cathédrale, etc. Avant le XIIe siècle, les mentions de grêle font donc figure d'exception dans les sources occidentales. Elles n'ont aucune valeur statistique et ne permettent pas de mesurer directement l'étendue des pertes matérielles. Il faut attendre l'époque moderne pour rencontrer des premières estimations chiffrées. Comme le fait la classification météorologique contemporaine, les témoins médiévaux sont en revanche attentifs à la taille des grêlons qui leur permet de donner une magnitude au phénomène. Et vous voyez que l'Office français pour la prévention de la grêle a donné un vocabulaire qui est relativement proche, il n'y a que l'oie qui n'est pas retenue dans ce système et qui vous montre qu'on parle d'œufs de pigeon, de noix, d'œufs de poule et d'œufs d'oie, dans ce cas-là de pommes ou d'oranges, avec chaque fois une idée du poids et des dégâts possibles que ce type d'averse peut provoquer. La sensibilité des témoins lettrés du Haut Moyen Âge aux phénomènes tempétueux et grêleux est donc demeurée faible. Dans les schémas de causalité utilisés pour rendre compte d'un désordre environnemental, l'intentionnalité de l'action divine était évidemment toujours invoquée comme la cause suprême des calamités. Les vicissitudes du climat relevaient des causes secondes. Parmi ces aléas, le froid ou l'excès de précipitations prolongées sont clairement perçus par les observateurs comme la cause directe des échecs des récoltes et des crises de subsistance. Les tempêtes n'occupent pas la même place dans la syntaxe et la narrativité du logos qui structure la perception chrétienne de l'environnement dans la haute culture. Comme on l'a vu précédemment, elles font partie des mots et non des causes qui permettent d'appréhender la signification prophétique de la communication divine. Ces manifestations sont donc perçues comme la traduction matérielle des signes adressés par Dieu au peuple et au souverain, garant de l'ordre terrestre. En revanche, la première glose latine du mot grêle, dans le Liber Glossarum, un vaste glossaire encyclopédique qui a circulé largement à partir de la fin du 8e siècle dans l'entourage de Charlemagne et dans les bibliothèques carolingiennes. Donc le Liber Glossarum affirme, je cite, que la grêle est appelée par les rustres calamité. suggérant des sensibilités différentes entre ceux qui endurent ces averses et les perçoivent comme une personnification du malheur météorologique, la calamitas, et ceux qui sont assurés d'en être protégés et de manger chaque lendemain à leur faim. Le point de vue narratif et l'intention des auteurs sont donc fondamentaux pour comprendre la place et la signification qu'ils accordent aux tempêtes parmi les autres aléas naturels. Si des orages et des averses de grêle sont mentionnés, par exemple, en 823 par les annales impériales franques, c'est qu'elles s'insèrent dans une sorte de capharnaüm pandémoniaque déchaîné par Dieu contre l'empire de Louis le Pieux. Ces aléas se prêtent à des réinterprétations ultérieures qui les chargent de nouvelles significations. Et si vous voulez bien, on ne regarde pas le passage des annales royales de 823, on lit au contraire dans la biographie de Louis le Pieux rédigée après la mort de l'empereur en 840 par l'astronome, la manière dont il va réinterpréter subtilement les événements. Des signes prodigieux et des apparitions troublèrent l'âme de l'empereur, notamment un tremblement de terre dans le palais d'Aix-la-Chapelle et des bruits inouïs entendus la nuit, puis le jeûne d'une jeune fille qui s'abstint de toute nourriture pendant 12 mois. Des éclairs de foudre serrés et inusités, la chute de pierre mêlée à la grêle, des maladies contagieuses chez l'homme et les animaux. À cause de tout cela, l'empereur Crépieux ordonna des jeûnes fréquents et exhorta les prêtres à réconcilier Dieu par une prière fervente et de riches aumônes. Certains qu'il était, c'est ici qu'il y a l'allusion évidemment du biographe qui sait ce qui va se passer après, certains qu'il était que ces apparitions seraient indiquées à la race humaine quelques grandes calamités à venir. L'astronome suggère qu'en 823, l'empereur était en mesure d'interpréter correctement la communication divine exprimée dans la nature et d'y réagir comme devait le faire un souverain chrétien. Mais sa rectitude et sa piété ne suffiraient pas à empêcher la grande calamité à venir, qui allait frapper les Francs. Cette partie du message divin lui demeurait cachée. Le récit de l'astronome prévoit l'inévitable qui surviendra entre 829 et 834, les troubles politiques, la discorde familiale, la rébellion des fils aînés contre leur père, la trahison des fidèles, et l'abdication forcée de l'empereur. Le biographe de Louis s'empare ici d'un des fondements idéologiques de la figure du souverain carolingien, l'homologie entre la performance du roi chrétien et la nature. D'après lui, l'empereur, qui était le garant de la bonne gouvernementalité, aurait lui-même mis en branle, en 823, l'arsenal des moyens liturgiques pour réconcilier son peuple avec Dieu sans recourir à des mesures spécifiques pour écarter la grêle. Non. Hop. Voilà. À partir du XIIe siècle, la rationalité des phénomènes naturels s'inscrit dans le concept de manifestation, qui est simultanément pensé comme une forme sensible de la création et comme le signe d'un principe immatériel et invisible, l'action de Dieu. Cette binarité est traduite en latin médiéval par deux termes. L'événement en tant qu'accident ou casus, sa signification en tant que signum divin. Le signe renvoie à l'existence d'une finalité supérieure dans les phénomènes les plus destructeurs ou les plus spectaculaires de la nature. Ceci, par rapport à la situation du Haut Moyen-Âge, gagne cependant en autonomie dans la mesure où ils répondent aux lois qui régissent l'ordre de la nature. Ils sont fréquemment qualifiés de prodigium ou de miraculum, des termes qui réunissent les deux dimensions de la manifestation, l'événement naturel comme cause seconde et l'intentionnalité divine comme principe suprême. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'émerge l'idée générique de désastre ou de catastrophe comme concept abstrait isolable et comme champ spécifique de rationalité, de connaissance et d'action matérielle. À partir du XIIe siècle, les encyclopédies médiévales favorisent une perception objective des causes physiques des accidents naturels. Voici un exemple tiré des Annales de Cambrai pour l'année 1165 par un chanoine de la cathédrale, Lambert de Waterloos. Il n'hésite pas à rapporter dans sa notice annuelle des manifestations et des signes extranaturels. Miracle accompli par la Vierge, procession côtoyant l'évocation des malfaisances de Pythonis, ou même cortège diabolique. Pour terminer, dans un tout autre registre narratif, par une description précise et détaillée de la tempête du 26 mai 1165. Trajet de la tornade, heure à laquelle elle a frappé Cambrai, vers 15h, bilan des dégâts matériels, mention de la cherté régionale des grains et de la disette qui s'ensuit. Je passe la parole à Lambert de Waterloos. Une immense nuée venant de la Manche et occupant toute la partie occidentale du ciel secoua violemment et écrasa Cambrai. Car à partir de la Manche, cette nuée frappa gravement la terre d'Arras, arrachant dans son parcours et ses voies les terres qu'elle traversait, la Normandie, l'Amiénois, le Vermandois et l'Arrajois, et brisant tout à l'intérieur de celle-ci les arbres, les champs de céréales, de fèves et de lin, et écrasant partout les habitations des hommes en les mettant en pièces. Dans cette région, le peuple fut affligé et pleura longtemps ses pertes. Et, note économique finale, s'ensuivit un prix de vente du grain qui terrassa quelques-uns dans divers endroits. Pour briser le silence des signes, une partie seulement des chroniqueurs recourait à des taxonomies associant par couple des catégories d'accidents et des significations. La perception et la compréhension des phénomènes naturels avancent donc sur deux plans séparés. La diffusion des connaissances astrologiques, héritées du monde classique, favorise une culture du présage, dans laquelle l'observateur pense pouvoir décoder l'enchaînement et la signification des événements naturels, là où les chroniqueurs du Haut Moyen-Âge procédaient par simple accumulation de faits. On l'a vu avec 823, la fille qui jeûne, le tremblement de terre, les bruits, etc. etc. Un chroniqueur comme Sigebert de Gembloux, au XIe siècle, excellait dans cet exercice de juxtaposition des événements et des présages. Il relit par exemple une notice contemporaine de 855 qui mentionnait un tremblement de terre et les dégâts de la foudre et des grêlons dans la vallée du Rhin comme des coups de théâtre qui présagent la maladie de l'empereur Lothaire, mort la même année, le règlement du partage de l'empire entre ses trois fils et sa retraite et sa mort sous l'habit monastique à l'abbaye de Preux. La première scolastique a contribué à ce que Tullio Gregori et Marie-Dominique Chenu ont qualifié de définition ou de découverte de la nature, comme ensemble de causes douées d'une consistance ontologique propre. On est loin, souligne Grégory, de la mentalité symbolique du Haut Moyen-Âge, qui tendait à ramener les phénomènes à une manifestation directe de la volonté de Dieu. La nature apparaît comme coopératrice du Créateur pour en compléter l'œuvre, comme la grande médiatrice entre Dieu et le monde. Elle se définit dans ce nouveau système métaphysique irrigué par les bases gréco-arabes, comme un ordre, un enchaînement, un nexus, une série de causes, un lien, un vinculum, et une règle du monde, et comme l'objet d'une raison naturelle jusque-là inconnue. « Je ne retire rien à Dieu », dira Guillaume de Conches dans sa Philosophia, en procédant à une interprétation physique et rationnelle des phénomènes et à une recherche des causes secondes avant de recourir à des explications surnaturelles. Quant à nous, nous disons qu'en toute chose, il faut chercher la raison si seulement elle est susceptible d'être trouvée. La sensibilité et l'intelligence du monde environnant s'en sont trouvées transformées en profondeur. Au point peut-être, comme l'avancent de nombreux historiens, de modifier l'occupation du monde par les Occidentaux, ou de faire de ce naturalisme philosophique le point de départ de la crise écologique actuelle. Exprimant cet esprit du XIIe siècle, Guillaume de Conches proteste contre ceux qui condamnent la recherche des causes secondes. Ignorant les forces de la nature, ils veulent que nous restions liés à leur ignorance, nous refusent le droit de recherche et nous condamnent à demeurer comme des rustos, rusticos, dans une croyance sans intelligence. En faisant de la grêle et du tonnerre des phénomènes naturels déterminés par des lois universelles, la nouvelle culture scientifique née au XIIe siècle n'érode pas les facteurs qui les rendent redoutables pour les habitants dans l'arrière-pays des campagnes. L'imprévisibilité et l'inéluctabilité des destructions. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que ces éléments soient pris en compte par la notion juridique d'act of God et de force majeure en français. Dans les années 1750, les caméralistes prussiens préconisaient de confier à un État providentiel, Allfürsorglich en allemand, la mission d'assurer la protection contre le hasard ou la malchance dans l'agriculture. En 1852, le libéral Émile de Girardin définira le contenu des devoirs d'assurance de l'État selon un principe de subsidiarité. L'État, dit-il, doit assurer les phénomènes naturels contre lesquels l'homme est impuissant, incendie, inondation, grêle, gelée, naufrage, épizootie. Rien de plus, rien de moins, en bon libéral. Le succès des premières assurances contre la grêle tarde pourtant à venir. D'après Girardin, la proportion des risques couverts en France était d'à peine 4% en 1850, ce qui donne la mesure des résistances des cultivateurs à des systèmes de mutualisation financière des risques, jugés sans doute par eux trop coûteux pour couvrir un risque aléatoire. En 1864, en Gâtinais, on suspecte les compagnies d'assurance d'envoyer leurs agents déguisés en missionnaires. Et ajoute le texte, missionnaires qu'on apprécie guère puisqu'ils grêlent les années où ils passent. Les rustos ont donc d'autres croyances pour rationaliser et apaiser la peur de la grêle. Le traité sur la grêle contient la narration d'une manière d'expliquer ces destructions. Le récit d'Agobard est construit comme une légende rurale centrée sur le sort des récoltes. Détruites par la grêle et les intempéries, celles-ci sont ensuite emportées vers un pays mystérieux au moyen d'un bateau naviguant sur les nuages. Après avoir été cédées contre de l'argent par des tempestaires qui les avaient accaparées par des maléfices. Ce récit est recoupé une vingtaine d'années plus tard dans une glose ajoutée en marge d'un second manuscrit lyonnais, le contre-Faustus, le manichéen de saint Augustin, par un élève et un proche d'Agobard, Florus de Lyon. Hein, je vous laisse deviner les différences et les ressemblances entre ces deux versions très proches, en allant directement vers une lecture minutieuse du texte d'Agobard. Celle-ci permet de dégager une trame événementielle. Quatre personnages ont été appréhendés et enchaînés dans le cadre d'une réunion, conventus. Après l'arrivée de l'évêque qui préside désormais cette assemblée, la mort par lapidation est demandée pour les accusés. Mais le prélat, après une longue argumentation, une ratiocination dans le texte, démontre leur innocence et les relaxe. L'affaire se déroule vraisemblablement durant une assemblée synodale qui réunit autour d'un responsable du clergé diocésain les habitants d'une région. Elle suit la procédure décrite dans des statuts de 799-800. Ceux qui se livrent aux incantations, à la divination et qui déclenchent des tempêtes ou d'autres maléfices doivent être conduits devant l'archiprêtre, afin qu'il les réprime par un examen très scrupuleux. Mais le résultat la relaxe plutôt qu'une peine de prison jusqu'à une juste confession est très différent de ce qui a failli se passer dans les campagnes lyonnaises. Les accusés forment un groupe mixte, trois hommes et une femme. Ces tombés du ciel apparaissent comme des inconnus. Leur mise à mort semble choisie en fonction d'une homologie entre les grêlons, dont l'impact est comparé à celui d'une pierre, et la peine de lapidation, par ailleurs totalement inconnue de la législation judiciaire carolingienne. L'incident initial confronte-t-il les habitants à un petit groupe mixte de déplacés, occupés à glaner des épis versés par la tornade ou hachés par la grêle, rendant impossible la moisson à la faucille ou à la faux. L'épisode se situe chronologiquement dans un contexte climatique général de détérioration des températures estivales, d'augmentation des précipitations et d'épizootie qui a débouché sur des crises de subsistance pluriannuelles dans les décennies 810 et 820. Augmentant par conséquent le stress social. Dans ce cas, la bouffée persécutoire interviendrait sur fond d'échec des récoltes et de spéculation accentuant le stress alimentaire. Florus évoque plutôt une coutume, une justice directe alimentée, dit-il, par la haine et la peur des tempestaires. Une lecture anthropologique vise à dégager la matrice élémentaire de la fable de Magonie et les mythèmes, selon l'expression de Claude Lévi-Strauss, qui la structure. Des agents, les tempestaires qui accaparent les récoltes en les détruisant par la grêle, les marchands de Magonie qui les leur achètent contre de l'argent, les tombées du ciel, matelots des nefs de Magonie. Une transaction, les fruits détruits par la grêle en échange d'un prix, précium, un véhicule, des vaisseaux voguant sur les nuages, un lieu, le pays imaginaire de la Magonie, et un incident révélateur, comme dans tous les bons mythes, la chute des matelots tombés du ciel. La transaction joue un rôle pivot dans le récit. L'action des tempestaires et des acheteurs de Magonie se noue dans une opération commerciale, la vente et l'achat de grains par des accapareurs. Dans un article de son manuel de confesseur, l'évêque missionnaire Pirmin, qui parcourait l'Allemagne du Sud au milieu du 8e siècle, écrit « Ne pas croire les tempestaires qui disent que les Mahones, on n'est pas très loin de Magonia, peuvent embarquer, tolérer, les récoltes, ne rien leur donner pour cela. L'accaparement et la spéculation, on le voit avec les grains d'Ukraine et de Russie, sont des thèmes récurrents des épisodes et des récits de famine durant toute la période pré-industrielle. Ces manœuvres sont également régulièrement dénoncées dans la législation carolingienne, qui les assimile à un grave péché, l'avarice et l'esprit de lucre, et tente de combattre leur influence sur le marché des subsistances par la fixation de prix maximum sur les céréales et le pain. Durant tout l'Ancien Régime, cette éthique de la consommation nourrit une économie morale des subsistances que la foule tend aux dominants comme un idéal de bonne gouvernance et de comportement. Dans le parallèle qu'il établit entre les 10 plaies d'Égypte et les 10 commandements, Augustin d'Hippone note à propos de la grêle sur les fruits « Tu ne commettras pas le vol ». Ces deux récits, très proches chronologiquement, constituent malheureusement, bon, moi je m'imaginais en trouver 100 évidemment, constituent malheureusement une sorte d'unicum littéraire en Occident, au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Il est donc possible qu'il s'agisse d'une fiction savante, sans équivalent dans les cultures subalternes. Selon Florus, pourtant, la terre de Mahonia et ses habitants, les Mahonès, étaient des mots de la langue du peuple lyonnais. Ce nom géographique, donc un radical déterminatif suivi du suffixe « onia », a déjà fait couler beaucoup d'encre, des litres et des litres. Suivant le principe du rasoir d'Occam, qui formule que les hypothèses suffisantes les plus simples sont les plus vraisemblables, la Magonie serait le pays des Magi ou Mages, une des dénominations utilisées fréquemment pour désigner les magiciens dans la législation carolingienne. Mais le mot Mahonès renvoie également à une série d'expressions verbales. Alors, elles ne nous écartent pas tellement de la transaction commerciale, parce qu'elles évoquent en latin les marchands véreux, en particulier les marchands d'esclaves qui maquillent leurs marchandises humaines, ou les détaillants de produits alimentaires, toujours considérés comme des voleurs au Moyen-Âge, comme les fishmongers ou les cheesemongers en anglais. Si la fable complète de Magonie racontée par Agobard n'a pas de postérité folklorique, plusieurs des mythèmes, c'est l'avantage évidemment de la technique de Claude Lévi-Strauss de pouvoir retrouver les éléments et la syntaxe et les mots du mythe, plusieurs des mythèmes qui la structurent se retrouvent de manière récurrente dans les récits météorologiques ou les récits d'échecs des récoltes. Et si vous voulez, dans cette partie de l'exposé, c'est ce parcours que je vais vous proposer. En commençant par les escamoteurs des fruits et des moissons. Ce motif est l'un des plus populaires dans ceux qui sont liés à la production agricole. Parmi les réalités matérielles qui sous-tendent le thème des récoltes dérobées, on pensera à l'aspect des champs après l'averse ou à des vignes hachées par les grêlons dont les raisins semblent avoir purement et simplement disparu. Ces scènes d'après-orage donnent l'impression que les grains et les fruits ont été littéralement emportés, plutôt qu'abîmés ou détruits sur place par les intempéries. Par le biais de raisonnements analogiques, qui s'inspirent de la magie sympathique, ces dégâts ont pu être assimilés à des larcins ou à des détournements opérés par des individus ou par des forces extranaturelles. L'idée que les vents fondent à vide sur la terre et remontent chargés de butin est déjà présente chez Pline l'Ancien. Dans le même substrat romain au 5e siècle avant Jésus-Christ, la loi des 12 tables prévoyait la peine capitale pour ceux qui transféraient les fruits d'un champ à l'autre. Cette référence au plus ancien code romain est relayée par Pline l'Ancien et par Sénèque, puis mentionnée par saint Augustin. Dans la cité de Dieu, ce qui a assuré sa pérennité dans la haute culture médiévale. Les escamoteurs de récolte sont donc des figures familières de la peur dans des sociétés fragiles, car soumises à une faible productivité agricole. Inconnus ou migrants suspectés d'être des voleurs de poules, coquins de toutes sortes, habiles à duper les paysans, voisines ou voisins dont la réussite dans les cultures et dans l'élevage alimente des rumeurs de malfaisance. Entre le Xe et le XIIIe siècle, les récits d'accaparement extranaturel des aliments se concentrent dans la sphère domestique et dans les villages. Cette magie du voisinage attribue à des voisins envieux ou à des génies malicieux le pouvoir de transférer la fertilité d'un champ ou d'un cheptel à un autre, de tarir le lait ou d'accaparer la force nutritive des aliments. Espaces de vie et de travail et croyances se superposent. Les manuels de confesseurs attribuent spécifiquement aux femmes ces manipulations des aliments qui se déroulent dans le cadre domestique, à l'intérieur ou autour de la maison familiale, qui est bien sûr leur espace privilégié. Ces témoignages demeurent rares durant la période médiévale, sans doute parce qu'ils relevaient de la culture subalterne et intéressaient par conséquent peu les observateurs cléricaux pour qui ils relevaient de la crédulité et de la pure fiction. Il était impossible de faire tomber la grêle, les femmes étaient incapables de voler pour rejoindre le diable ou les bonnes dames. Parce qu'elle investit les croyances populaires sur la manipulation des tempêtes pour en faire un lieu commun de la sorcellerie diabolique, la démonologie du XVe siècle permet d'enrichir la collecte, car l'interrogatoire des inquisiteurs et des juges des tribunaux laïcs porte désormais également sur la magie du quotidien. Tu demanderas, conseille le marteau des sorcières en 1487, tu demanderas à la femme accusée de sorcellerie comment il se fait que n'ayant qu'une vache ou deux, elle obtient plus de lait que ses voisines qui en ont quatre ou six. Non, j'ai mis un jalon de trop. Le soupçon de dérober magiquement croise d'autres témoignages sur la criminalisation de la dissimulation des récoltes, une stratégie séculaire de résistance des paysans à l'accaparement. Une disposition du célèbre capitulaire de Devilis, vers 800, envisage le cas où des grains auraient été dissimulés sous le sol ou ailleurs par les tenanciers des domaines royaux. Que chaque intendant veille à ce que des hommes dépravés ne puissent cacher nos semailles sous la terre ou ailleurs, et qu'à cause de cela, la récolte soit moindre. De même, pour les autres maléfices, qu'ils veillent à ce qu'ils n'en puissent faire d'autrefois. Ce texte visait-il à réprimer le vol ou la dissimulation de semences ou des manipulations magiques contre les cultures seigneuriales? Exprimait-il plus largement la défiance des maîtres contre l'emploi de silos souterrains par les paysans? On rencontre ce mode de stockage dans la plupart des fouilles d'habitat rural du Haut Moyen-Âge. Aux yeux de Charlemagne, dérober la semence et enfouir les grains était un forfait. Comme en Ukraine en 1932, ou en Chine et au Tibet, durant le grand bond en avant en 1962-64, les caches souterraines étaient un moyen habituel pour résister aux taxes et aux réquisitions. Dissimuler les récoltes ou cultiver des céréales en secret entrait dans les formes de résistance et dans les stratégies de subsistance des subalternes. Alors on en arrive évidemment à ce que Patrick attendait. Bon, je n'ai pas trouvé autre chose que cette magnifique vache, la vache des nuages de la ligne générale de Serge Eisenstein de 1929. Mais c'est une vache de nuages. Et on parle plus d'écrémeuse que de grêle dans le film. L'histoire de la nef de Magoni a également beaucoup à nous apprendre sur la tendance à la matérialité des représentations populaires des phénomènes naturels. Der Wanderer über den Nebelmeer n'est pas seulement un tableau emblématique du romantisme allemand et une source d'inspiration littéraire sur la mer aérienne. L'image était déjà présente dans une observation faite par Lucrèce, mais dans un texte qui n'est connu qu'au début du XVe siècle. Lucrèce écrit « Pour apercevoir les nuages comme une mer, il faut les voir depuis un point culminant à la manière des montagnards. » Elle entre dans un système d'analogie plus large entre l'air et l'eau, qui inclut par exemple les affinités sonores entre la tempête, le grondement des flots dans un fleuve ou le bruit des vagues de l'océan. D'après l'Imago Mundi, on est vers 1110, d'Honorius d'Autun, l'image était proverbiale. On dit que les nuages sont comme des bateaux d'averse. La comparaison morphologique circule ensuite dans les encyclopédies médiévales par l'intermédiaire du Naturis Rerum de Thomas de Quentin-Pré, vers 1244. Comme une embarcation transportant la pluie, le nuage est à la fois solide, mais aussi creux et mobile. Comme le suggère finement l'historien américain Paul Dutton, le bateau en forme de nuage, ou voguant sur eux, évoque la forme des cumulonimbus, cumulus en latin monceau, nimbus, nuage de pluie, des cumulonimbus responsables des orages qui prennent également l'apparence d'une enclume, d'une montagne, de tours énormes, etc. Ces formations nuageuses ont une extension verticale considérable de 5000 à 12000 mètres d'épaisseur aux latitudes tempérées et une grande dimension. Elles donnent lieu à des phénomènes météorologiques caractérisés par un temps violent, tels que les orages ou les coups de vent violents qui peuvent être accompagnés de pluies, de grêle ou de grésils. Au Moyen Âge, l'apparition d'un nuage en forme de navire était donc interprétée comme un signe annonciateur. C'est une fiction utile qui permettait aux marins et aux paysans de sentir l'approche de la tempête et de tenter de s'en prémunir. Mais ces homologies peuvent également apparaître à l'arrière-plan de récits plus complexes qui les utilisent pour évoquer trois schèmes indépendants. Alors d'abord, un phénomène assez banal, la personnification des forces naturelles, mais qui peut ici déboucher sur la fiction d'esprits aériens ou d'humains capables de diriger les vents pour nuire à autrui et de naviguer dans les airs. C'est, on l'a vu, le thème évoqué par Agobard et par quelques très rares autres témoins médiévaux. Et enfin, un troisième schème, le mythe universel de la navigation des âmes des morts ou des damnés. Notre enquête microhistorique doit examiner minutieusement les différences qui séparent ces deux motifs anthropologiques. Le premier relie structurellement la nef de nuages aux aléas météorologiques et aux acteurs qui sont censés les provoquer. Le second intervient lors d'un contact fortuit entre le monde des morts, dont il constitue une variante liée aux activités maritimes, pêche, commerce, piraterie. Le motif du vaisseau aérien renvoie également à des relations analogiques entre l'eau qui porte le nageur et le navigateur et l'air qui porte l'oiseau. L'association entre le mauvais temps et des bateaux de nuages est particulièrement présente dans les cultures germaniques, encore aujourd'hui. mais on la trouve également en Occident, dans la plupart des régions maritimes, comme en Irlande ou dans la Méditerranée. Le Didalvis, qui fait partie de l'Edda poétique, composé au XIIe siècle, raconte les épreuves du nain Alvis, le tout savant, qui souhaitait épouser la fille du dieu Thor. Thor lui demande le nom qu'on donne aux nuages, qui gardent les pluies. Le nain répond, dans une longue suite de définitions, que les Vanir, les dieux scandinaves de la fertilité, les appellent Vindflot, radeau des vents. L'emploi du mot Vindflot montre que les Islandais y voyaient l'idée d'une embarcation flottant sur les vents. Dans la conception d'un monde en trois étages, ce bateau voguant sur l'air du dessus communique avec la surface terrestre par son ancre. Le motif se distingue ainsi structurellement d'un autre, le célèbre Hollandais volant, le vaisseau fantôme popularisé par Heinrich Heine, Richard Wagner et Henry Longfellow, qui surgit de la brume en frôlant les vagues et symbolise le crime et le châtiment. L'italien a emprunté au vocabulaire des marins le mot macone. On n'est pas très loin de Magonia non plus, qui pourrait être également apparenté au magones. Il servait, ce mot de macone, à qualifier les tempêtes qui menaçaient les navires en Méditerranée. Le macone était tantôt le nuage ou la trompe d'eau, tantôt l'esprit malin qui la pilotait. Cette seconde version est rapportée pour la première fois en 1350 par le franciscain Niccolo da Pongibonzi. Le bateau qui le ramenait de Terre Sainte essuya une terrible tempête qui manqua le faire sombrer. C'était, lui auraient dit les marins, l'œuvre d'un macone qui dirigeait vers eux les intempéries. Au-delà d'un substrat populaire, l'idée que les démons étaient faits d'air et d'eau a pu contribuer à cette diabolisation des phénomènes météorologiques. Mago, cette fois-ci, désigne la nuée d'orage dans un des sermons du grand prédicateur franciscain Bernardin de Sienne, composé entre 1430 et 1436. Je le cite. Les gens de mer ont une croyance absurde dans l'existence d'un nuage que certains appellent Magonem et qui est l'annonciateur de l'ouragan qui détruit les navires. Les marins croient qu'il est possible de le détourner en tirant l'épée et en la faisant vibrer. D'après ce sermon, on dégaine également un glaive pour conjurer les tornades et l'on place une épée nue sur le mât du bateau pour détourner la tempête. Si vous vous souvenez de la leçon précédente, on est dans un de ces thèmes, le feu, le tranchant, le bruit glaive qu'on fait vibrer. On retrouve ici donc l'usage d'armes blanches ou d'autres instruments tranchants pour conjurer les nuées d'orage en les coupant en deux et l'emploi des sons comme par un grêle. Ces pratiques sont encore évoquées au XXIe siècle. On trouve tout sur Internet, y compris un petit journal italien local. Les pêcheurs de Tarente, écrit le journaliste, font trois fois le signe de la croix dans la direction de la trombe et la tranchent avec un couteau à manche noire. Ceux d'Amalfi défont un nœud en prononçant des phrases à valeur magique. Au XIIIe siècle, deux vers du poète toscan Ruggieri Apuliese permettent de rapprocher les Maconi marins italiens des Magones de l'ère culturelle franque. Dans un contexte cette fois clairement non maritime, leurs incantations provoquaient la tempête. Cette croyance italienne dans l'intentionnalité des esprits des tempêtes était encore présente, on l'a vu avec Pie di Porco, en Lucanie au début du siècle passé. Résumons-nous. Des traditions germaniques et italiennes associent la tempête et la grêle au nom donné par les marins à certains nuages ou à leurs pilotes surnaturels. Mago, Mako, représente peut-être une dénomination commune des nuées d'orage dans plusieurs régions d'Europe méridionale. Mais le thème précis du bateau emportant les récoltes détruites n'apparaît que dans le traité d'Agobard et le commentaire de Florus de Lyon. Il fait la synthèse entre l'imaginaire nourri par la forme des nuages et les destructions des récoltes par la tempête et la grêle et l'univers de l'économie morale des subsistances. Un chapitre des Otia Imperiala de Gervais de Tilbury, au début du XIIIe siècle, développe le thème du bateau aérien et des tombées du ciel, en lien avec les trois étages du monde, matérialisés par un arbre, une ancre ou une corde magique. Je cite, « Alors que les fidèles sortaient d'une église, l'ancre jetée depuis un bateau aérien s'accrocha à l'une des tombes du cimetière qui entourait les sites de l'édifice. Un marin en descendit pour tenter de la décrocher et de libérer ainsi le navire. Alors qu'il se préparait à grimper, les gens accourus en foule s'emparèrent de lui et il rendit l'âme entre leurs mains, saisi d'étouffement comme un noyé. » Donc le marin renvoie à l'eau et pas à l'air, et donc il l'étouffe à l'air libre. Gervais a puisé l'inspiration de ses loisirs impériaux, hein, Otia Imperialia, dans un fond d'histoire non chrétienne, durant ses séjours en Italie, en Provence et en Angleterre. Il en a rapporté des récits touchant aux fées, aux génies domestiques, aux créatures extraordinaires tapies au fond du Rhône, comme le drac, aux lamis qui sillonnent le ciel nocturne et troublent les songes des dormeurs, aux mélusines qui s'unissent avec les hommes et font souvent leur malheur, aux revenants du purgatoire, voire aux esprits du mauvais temps. Inspiré par la théologie naturelle de la première scolastique et son invitation à parcourir le livre de la nature, l'œuvre de Gervais est l'une des premières à intégrer dans la culture courtoise des récits sur les merveilles de la nature tirés des cultures orales anglo-normandes, saxonnes, norroises, galliques et irlandaises, voire occitanes, et de leur première transposition écrite. Les différents mitèmes qui forment le motif du bateau aérien utilisé par Gervais se trouvent réunis sous la forme d'un récit dans les îles britanniques, à partir du 8e siècle. Dans les versions écrites de ce récit qui circulait en Irlande au 12e, un ou plusieurs marins rentraient accidentellement en contact avec les humains à la faveur de la perte d'un harpon ou d'une ancre. Une version norroise synthétise les principaux aspects du thème. Elle situe l'événement à Clonmacnoise, dans l'église du fameux monastère irlandais dédié à Saint Ciaran Abbé. Le bateau céleste et ses marins sont aperçus alors qu'ils jettent une ancre qui reste accrochée à un arche de la porte de l'édifice. Un marin descend le long de la corde pour la détacher. L'évêque présent empêche les gens dans le public de s'emparer de lui, car, dit-il, il manquerait de se noyer. Le marin tranche alors la corde, laissant sur place l'ancre qui peut encore être vue dans l'église et remonte dans son bateau. Le matelot aérien qui nage dans les airs mais se noie sur terre ou dans la mer représente simultanément l'inversion de l'ordre cosmique entre le monde des vivants et l'au-delà des défunts. D'autres versions circulent au XIIe siècle sur le thème de la pêche ou à Londres, d'une apparition un jour de foire en période de disette. En comparaison avec le thème du mauvais temps illustré par le bateau de Magoni et les témoignages italiens, le motif irlandais est sans lien avec un événement météorologique. On ne nous dit jamais « le ciel s'est obscurci, le vent a soufflé ». C'est un accident cosmologique. un témoin archéologique exceptionnel, témoigne d'une interprétation chrétienne du bateau aérien dans la tradition irlandaise. La colonne de pierre de Kilnarwain, datée du 8e siècle, représente la barque traditionnelle des Irlandais, le Curach. Hein, donc vous la voyez ici, elle est. Voilà, elle est ici et elle est là, bien redressée. Et son équipage naviguant sur une mer de croix chrétienne. Cette figure représente vraisemblablement le bateau des marins défunts qui circule dans le ciel. À la même époque que la colonne de Kilnarwain, l'archétype du bateau aérien apparaît dans plusieurs annales insulaires, ce qui en fait le contemporain des nefs de Magonie et des Magonès, accapareurs de moissons. Un comparatisme prudent, ai-je intitulé ces conclusions. Le dossier irlandais plaide certes pour la pratique prudente du comparatisme, prudent et minutieuse. Une pratique attentive aux variations structurelles des fictions littéraires et à la multiplicité des façons d'habiter le monde. En lyonnais, la nef de Magonie d'Agobard évoque la forme des nuées d'orage qui apportent la grêle destructrice des cultures et les accapareurs de moissons. Ailleurs, il est surtout question à propos des Magoniens, de marchands sans scrupules, de maquignons, habiles à duper les paysans et à les priver de leurs biens, voire des rangs de toutes sortes, toujours suspect d'être des voleurs de pommes ou des jeteurs de sorts. Pensons à notre époque à la stigmatisation des Roms ou des migrants sans papier. Le macone italien symbolise le grain et la trombe d'eau qui menace les navires de naufrage. Dans ces trois variations, la Magonie symbolise l'action d'un ennemi humain ou d'une force naturelle qu'il convient de repousser en payant des défenseurs pour combattre les éléments, ou d'éliminer lorsqu'elle semble impliquer un monde interlope d'intrus et de migrants suspectés de voler ou de dérober les fruits comme les vents. En Irlande, le motif du bateau de nuages est déconnecté complètement des événements météorologiques. L'iconographie le rattache simultanément au mythe celtique du vaisseau des morts et à une métaphore appartenant à la haute culture cléricale, l'Église comme vaisseau voguant sur une mer de croix. La culture établie semble prêter peu d'attention à ces rencontres du troisième type. À partir du XIIe siècle, ces histoires viennent illustrer le merveilleux et les situations de surnature, praeter naturam. À l'exception du pilier de Kilnarwain, les mythèmes qui participent au récit des bateaux de nuages et des lanceurs de grêle ne sont pas l'objet d'une inclusion ou d'une surimposition chrétienne avant le XVe siècle. Malgré le filtrage ou l'indifférence des sources cléricales et savantes, ces vestiges narratifs représentaient vraisemblablement des éléments de la culture autochtone, mis à jour par la réfutation des sottes croyances des rustres ou réintégrés dans la littérature des merveilles comme un élément d'une imago mundi débordant les limites de l'univers théologique. Immergés dans l'environnement, les habitants de l'arrière-pays avaient une perception sensible des intempéries qui se traduisaient sur les plans matériel et idéal. Observer la forme des nuages pour mettre les animaux à l'abri ou rentrer les moissons, serrer les voiles, éviter de cheminer par temps d'orage dans des lieux élevés ou sous le couvert forestier. Élaborer des fables qui donnent corps aux peurs météorologiques et permettent de les maîtriser ou de les amoindrir psychologiquement. Les nuages, selon la belle formule de Karine Becker, se présente à l'œil humain comme un écran sur lequel il projette toutes sortes de figures issues de son imagination. Il s'offre librement à l'imagination individuelle et aux constructions culturelles collectives comme des moyens de se représenter et de penser l'environnement indépendamment de la nature chrétienne fondée sur une relation unidirectionnelle entre Dieu et le milieu. Et c'est maintenant une tradition, hein, on appâte le public avec la leçon suivante. Alors, vous voyez très bien qu'on a fait une mise en place qui est assez déstructurée pour un historien allant de l'Irlande à l'Italie, de 1952 à 823. Je vais m'efforcer dans la dernière leçon de ce cycle, alors, de voir comment finalement on affronte les tempêtes dans un monde chrétien. Alors, il ne s'agit pas de donner une version chrétienne des tempêtes, on a vu qu'elle est relativement faible, mais de voir comment les paysans se confrontent à la christianisation, à la haute culture chrétienne et à leurs propres croyances et comment finalement les choses se déroulent et se restructurent à ce niveau-là. Voilà.